Vous écoutez, on lit pour vous.
Geneviève Garon nous invite dans le trouble. Un texte de Catherine Handfield, paru le 4 février 2024 dans La Presse. Quand Geneviève Garon était au plus profond de sa souffrance, elle avait besoin d'entendre des histoires comme la sienne. Pour s'y retrouver, savoir qu'elle n'était pas seule, pas folle et pas incurable. C'était dans les années 2018 à 2020, alors qu'elle était en thérapie pour soigner son trouble alimentaire. Le jour, en thérapie de groupe, j'entendais les autres filles parler, mais de retour à la maison, je ne trouvais pas de balado ou de documentaire en français. Il y avait « La peau et les os » de l'ONF, mais ça date des années 1980. Ce que Geneviève cherchait surtout, c'était les histoires qui donnent espoir. Un projet actualisé. Ce projet dont elle aurait eu besoin, la journaliste Geneviève Garon y travaille depuis 2 ans, aux côtés du réalisateur Martin Girard. Et il est fin prêt, à temps pour la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires. Divisé en 7 épisodes, dans le trouble, plonge l'auditeur dans la réalité des troubles alimentaires à travers celles et ceux qui les vivent ou qui les ont vécus. Catherine, Ariane, Mégane et sa maman, Caroline, Marie-Pierre et son conjoint, Antoine, David, Geneviève. L'émission Balado est d'abord destinée aux gens qui en sont atteints et à leurs proches. Mais tout le monde peut y trouver son compte. Avec sa propre histoire en filigrane, Geneviève Garon propose une incursion sensible, émouvante et sans tabou dans l'univers des troubles alimentaires et la psyché de celles et ceux qui en souffrent. Peu importe le type de trouble, l'âge et même le sexe, cette souffrance a quelque chose d'universel, constate Geneviève Garon. Surprise de s'être à ce point retrouvée dans le témoignage d'un homme, l'enseignant Antoine. Dans ses pensées par rapport à la réussite, à la rigueur, dit-elle. Comptent en commun tous ces gens? Geneviève Garon prend un moment pour réfléchir. C'est souvent d'avoir l'impression d'avoir toujours agi en fonction de ce que les autres attendent de soi, sans nécessairement savoir ce que toi, tu veux réellement, illustre la jeune femme rencontrée dans son lumineux condo à Montréal. Et puis, c'est une façon de gérer l'anxiété quand, des fois, tu as l'impression de ne rien contrôler. Pour certains d'entre eux, comme Catherine, hospitalisée 3 fois en 2 ans, les choses sont encore difficiles. Mais il y en a aussi qui vont très, très bien, dit Geneviève Garon. Ça permet de voir qu'on a raison d'avoir espoir et de se rétablir. De se rétablir, mais aussi de faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir faire avant. Animatrice de D'abord l'Info Week-end à RDI, Geneviève Garon n'aurait jamais pensé retourner à l'Institut Douglas, non plus comme patiente, mais comme journaliste, non plus fragile, mais solide. Quand je passais mes journées au Douglas, il y a des moments où je me sentais très loin de la vie que je voulais avoir. D'y retourner, ça m'a donné l'impression de boucler la boucle. C'était un peu comme retrouver mon identité là-dedans, se souvient Geneviève Garon. Donner de l'espoir. Geneviève doutait qu'elle puisse un jour manger ce que les autres mangent, avec bonheur, et vivre sans s'entraîner tout le temps. C'est pourtant ce qui lui arrive. Je vais beaucoup mieux, mieux encore que lorsque j'en avais parlé il y a 3 ans, dit-elle, en faisant allusion à son passage à Tout le monde en parle en 2020. Elle avait été invitée à l'émission après s'être ouverte sur son trouble alimentaire sur Facebook. Elle voulait alors expliquer ses absences du travail. Elle avait eu 2 arrêts de plusieurs mois entre 2018 et 2020, mais aussi briser le silence et la honte. Ce qui reste, ce sont des petites parcelles de troubles alimentaires par-ci par-là qui s'en vont graduellement. L'ambivalence, elle n'est plus là, explique Geneviève. Il n'y a aucun bonheur là-dedans, je le sais. Les rencontres qu'elle fait au fil de l'émission Balado mettent bien en lumière cette ambivalence devant leur établissement. Au plus bas, Geneviève Garon se disait qu'il valait mieux être maigre et malheureuse que grosse et malheureuse. Mais quand tu te remets à être mieux alimentée, tout s'éclaircit dans ta tête. Les choses qui étaient extrêmement lourdes deviennent plus tolérables. La vie devient un petit peu plus douce chaque fois. Et à un moment donné, tu ne veux plus revenir en arrière, nous dit Geneviève Garon. Comme société, dit-elle, il faut continuer à réfléchir à notre rapport à la nourriture et à la diversité corporelle, à cette tendance à glorifier la discipline alimentaire, à nos commentaires sur l'apparence. On le voit dans la série, il y a bien des gens qui ont entendu un commentaire, enfant, et qui s'en souviennent encore 20 ans plus tard, dit-elle. Ce que Geneviève Garon souhaite surtout, c'est donner de l'espoir aux gens qui pourraient se reconnaître à travers les témoignages et comprendre qu'ils peuvent se faire confiance et faire confiance à leur corps, dit-elle. Il faut juste se donner la chance, commencer un cheminement, une thérapie, parce que ça ne partira pas tout seul. Une semaine pour sensibiliser. Organisée depuis 2014 par Anorexie et Boulimie Québec, ANEB, et la maison L'Éclaircie, la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires se déroule en 2024 du 1er au 7 février. Différents événements sont organisés, dont une conférence et un atelier en ligne gratuit. En 2023, ANEB a offert des services à 24 202 personnes, une hausse de 40 % depuis la période pré-pandémie. De plus en plus de jeunes enfants se tournent vers l'organisme et les gens présentent des cas de plus en plus graves. C'était Geneviève Garon nous invite dans Le Trouble. Un texte de Catherine Hanfield, paru le 4 février 2024 dans La Presse.
Un projet de loi pour protéger les élèves ne mentionne pas les violences sexuelles. Un texte de Léa Beaulieu-Kratchanov, paru le 1er février 2024 dans Pivot. Le projet de loi 47 sur la protection des élèves ne fait pas l'unanimité lors des auditions publiques. Certains groupes invités à s'exprimer ont soulevé le manque de clarté du texte de loi et remis en question la capacité d'un code d'éthique à combattre les violences sexuelles dans les écoles du Québec. Le projet de loi 47 visant à renforcer la protection des élèves tente de mettre en place les recommandations formulées dans le rapport d'enquête du ministère de l'Éducation sur les inconduites sexuelles dans les écoles. Mais aux yeux de plusieurs groupes qui ont été invités à se prononcer en commission parlementaire, mardi et mercredi les 30 et 31 janvier 2024, la législation proposée par le ministre Bernard Drainville rate sa cible. Le projet de loi forcerait notamment les centres de services scolaires et les écoles à se munir d'un code d'éthique et bifferait les clauses d'amnistie qui assurent la confidentialité des dossiers disciplinaires des employés du réseau de l'éducation. Il obligerait aussi tout employé à signaler au ministre de l'Éducation une situation compromettant la sécurité des élèves. Malgré que l'enquête sur les inconduites sexuelles en soit le leitmotiv, le texte de loi ne fait aucune mention du terme « violence sexuelle ». il réfère plutôt aux comportements pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves. Une définition beaucoup trop large déplore les syndicats. On risque de perdre de vue ce pourquoi on voulait faire ces amendements, pour prévenir des inconduites très graves qui étaient passées à travers les mailles du filet, remarque Mélanie Hubert, présidente de la Fédération autonome de l'enseignement, FAE, en entrevue avec Pivot. Une loi, mais laquelle? Un code d'éthique. Pensez-vous que c'est ça qui va freiner un pédophile? Avance Mélanie Lemay, cofondatrice de Québec contre les violences sexuelles, QCVS, et co-coordonnatrice du collectif La Voix des jeunes compte. Lors de son passage en commission parlementaire mercredi, elle a exprimé sa déception quant au projet de loi qui devrait plutôt viser la mise en place d'une loi cadre, selon elle. Une telle loi forcerait les centres de services scolaires à se doter de mécanismes adaptés afin de prévenir et enrayer les violences sexuelles, tout en offrant un soutien continu aux victimes. Elle a également été revendiquée par la Fédération des comités de parents du Québec, FCPQ, et la Fédération autonome de l'enseignement, FAE, lors de leur passage à la commission. On veut la création d'un réseau qui va venir en aide aux jeunes, a résumé Mélanie Lemay devant le ministre de l'Éducation Bernard Drainville. Ce dernier s'est défendu que le système actuel, en grande partie fondé sur le protecteur de l'élève, PNE, et auquel s'ajouteraient les nouvelles mesures dans le projet de loi, constitue un dispositif solide pour bien protéger nos élèves dans les écoles. Le PNE est chargé de traiter les plaintes et les signalements de toutes sortes dans le réseau scolaire, de diffuser de l'information sur les droits des élèves et de conseiller le ministre. Une loi cadre obligeant les écoles à se doter de protocoles précis spécialement pour les violences sexuelles peut aller beaucoup plus loin, pense Mélanie Hubert, présidente de la FAE. Cela permettrait de fournir des ressources aux élèves à l'école, de mettre en place des programmes de prévention et d'accompagner les victimes, chose qui ne relève pas du mandat du PNE et dépasse la portée d'un code d'éthique. Elle permettrait également de prévoir un protocole lorsque l'agresseur est un autre élève, ce qui n'est pas prévu par le projet de loi. Les violences à caractère sexuel nécessitent un traitement particulier, un accompagnement particulier, et on ne peut pas demander aux jeunes de rester en contact avec leur agresseur pendant 20, 30 ou 40 jours, le temps que le protecteur soit saisi du dossier, explique Mélanie Hubert, en soulignant les délais du traitement des plaintes. Une loi cadre n'est pas une finalité en soi, c'est une ligne de départ, a aussi fait remarquer Mélanie Lemay lors de son intervention. Selon elle, toute législation en matière d'inconduite sexuelle à l'école devrait au long terme favoriser un changement de culture au sein des institutions scolaires. Amnistie pour les profs délinquants? Le projet de loi 47 permettrait par ailleurs de retirer la clause d'amnistie qui couvre actuellement les dossiers disciplinaires des membres du personnel scolaire ayant fait l'objet d'enquêtes ou de sanctions pour cause de comportements problématiques, y compris de violences sexuelles. Cela permet à des employés de passer d'un centre de service scolaire à un autre sans que leur dossier disciplinaire ne les suive. On constate que les commissions scolaires vont parfois pousser vers la sortie des individus qui commettent des gestes de violence sexuelle, mais ça va se traduire après vers un glissement dans une autre école, a établi Mélanie Lemay lors de sa présentation. Elle a qualifié le retrait des clauses d'amnistie de gros bon sens, qui aurait dû être mis en place bien avant le projet de loi. La Fédération des comités de parents du Québec, FCPQ, a salué la nouvelle mesure, mais la Centrale des syndicats du Québec, CSQ, la Confédération des syndicats nationaux, CSN, et la Fédération autonome des enseignants, FAE, s'y sont toutefois opposés. La CSQ a défendu que la loi priverait les employés ayant commis des gestes de violence sexuelle contre des élèves de bénéficier d'un pardon qui est accessible dans le système de justice. On se demande si on devrait parler de mesures disciplinaires dans les cas de violence sexuelle ou de plainte à la police, explique pour sa part Mélanie Hubert de la FAE. Des cas de cette nature-là, ce sont des cas de nature criminelle. Si on traitait les antécédents judiciaires comme il faut, les gens ne pourraient pas se promener d'un centre de service scolaire à l'autre. C'était un projet de loi pour protéger les élèves, ne mentionne pas les violences sexuelles. Un texte de Léa Beaulieu-Kratchanov, paru le 1er février 2024 dans Pivot.
Lumière sur les zones grises qui alimentent en travailleurs les usines québécoises. Un texte de Jean-Louis Bordelot, paru le 1er février 2024 dans Le Devoir. Pour arriver à déplacer en 3 ans quelque 250 000 travailleurs de l'international vers le Québec, on a mis en place une véritable chaîne d'approvisionnement en main-d'œuvre. On effectue des livraisons de stocks d'employés et on offre aux entreprises des garanties de satisfaction. À chaque étape de cette marchandisation de la main-d'œuvre se trouvent des zones d'ombre propices aux abus, souligne un rapport universitaire paru jeudi. C'est la jungle dans l'industrie du recrutement international, résume Aline Lechaume, professeure au département des relations industrielles de l'Université Laval. Elle et sa collègue Clara Guyot ont interrogé moult entreprises, agences et autres organismes de Chaudière-Appalaches, l'un des poumons industriels du Québec. Leur enquête jette un éclairage sur les zones d'ombre d'une industrie qui déplace chaque année des dizaines de milliers de travailleurs. Très peu de compagnies recrutent elles-mêmes à l'étranger. Elles délèguent presque toutes l'embauche à l'international à des agences intermédiaires. Et ni les unes ni les autres ne s'intéressent au comportement de l'autre côté. Tout ça relève d'autorités différentes et ça échappe au contrôle. Tout le monde se renvoie la balle en disant « ce n'est pas moi, c'est l'autre », relate Aline Lachaume. Tout est fait pour qu'il y ait des zones grises partout. Dans toutes ces zones grises, il y a des potentiels d'abus. Par exemple, certaines personnes paient pour être recrutées, ce qui est illégal. Mais les employeurs ne le savent pas et ne posent pas de questions. Nous, on a pris le contrat gros prix. On ne sait rien, confirme une entreprise citée anonymement dans le rapport. Même si ça coûte très, très cher. Inversement, les agences ne se préoccupent guère des conditions de vie de leurs recrues une fois qu'elles sont installées au Canada. Leur service s'arrête à l'entrée à la frontière, indique un recruteur Beauceron dans le document d'une 40aine de pages. On ne s'immisce pas dans la relation de travail. Satisfaction garantie ou travailleur remis. L'embauche clé en main d'étrangers devient peu à peu la norme pour le recrutement à l'international. Le stock infini de main-d'œuvre permet aux agences d'offrir des garanties de satisfaction aux entreprises clientes, comme le remplacement du personnel en cas de problème ou de caractère revendicateur. C'est la stabilité que l'on va chercher. On achète la paix dans le fond, confie une des entreprises qui traite avec ces agences. La paix est cher payée. L'employeur débourse de 7 000 à 15 000 $ pour chaque employé étranger, indique l'étude. Des entreprises ont déjà confié au Devoir débourser jusqu'à 20 000 $ par travailleur temporaire. Ce commerce de migrants n'est pas exempt de stéréotypes. On trouve, par exemple, sur le site Internet de l'agence Solutions Recrutement International, ce discours. Toujours disponibles et assidus, Les Philippins sont des travailleurs dévoués qui respectent incontestablement l'autorité. Pas intéressé par les Philippins? Il y a alors les Malgaches. Des personnes qui tendent la main aux autres, ils sont doux, gentils et toujours souriants, avec une très, très bonne attitude au travail. Ces zones grises ne sont pas nécessairement le fait d'une mauvaise foi, précise Aline Lechaume. Ce système-là fonctionne parce qu'il alimente en général de petites entreprises qui n'ont pas l'habitude de recruter des travailleurs immigrants. Elles ne savent pas comment faire. L'industrie des agences de recrutement internationales traverse une période de croissance exceptionnelle. Quelques 150 agences étaient enregistrées en 2020, tandis que Le Devoir en a recensé 829 début 2024 à partir de données officielles. C'était Lumière sur les zones grises qui alimentent en travailleurs les usines québécoises. Un texte de Jean-Louis Bordelot, paru le 1er février 2024 dans Le Devoir.
Polly se souvient, plaide pour une interdiction de toutes les armes d'assaut. Un texte de Jeanne Corriveau, paru le 8 mars 2024 dans Le Devoir. La loi modifiant certaines lois et d'autres textes en conséquence, armes à feu, approuvés en décembre 2023 par le Sénat, représente une avancée importante pour les femmes victimes de violences conjugales, mais il reste encore bien du chemin à faire pour interdire toutes les armes d'assaut, a rappelé Polly se souvient. De passage à l'Hôtel de Ville de Montréal, le jeudi 7 mars 2024, l'organisme a réclamé des maires des grandes villes canadiennes qu'ils se mobilisent pour faire pression auprès du gouvernement fédéral et l'incite à bannir les armes problématiques. En 2022, le service de police de la Ville de Montréal a recensé 13 472 appels de service en lien avec la violence conjugale, soit 23,3% de l'ensemble des crimes contre la personne enregistrés sur le territoire, a indiqué le conseiller d'Ensemble Montréal, Abdelha Sari. Autrement dit, un quart des crimes contre la personne sont des crimes de violence conjugale. Ces chiffres montrent que malgré les efforts consentis, beaucoup de travail reste à faire, a déclaré l'élu qui, à la veille de la Journée internationale des droits des femmes, était accompagné de représentantes d'organismes dont Polly se souvient et Halte Femmes Montréal-Nord. Et dans bien des cas, a-t-il ajouté, les armes à feu arrive au premier rang ou au deuxième, selon les années, des armes utilisées dans un contexte de violence conjugale. Au printemps 2023, la Chambre des communes avait adopté le projet de loi C-21 visant à renforcer l'interdiction des armes d'assaut et le gel des armes de poing à 207 voix contre 113, avec le soutien des députés libéraux et néo-démocrates du Bloc québécois et des Verts. Les conservateurs avaient voté contre. En décembre, c'était au tour du Sénat de donner son aval au projet de loi. C'est un énorme progrès, mais pour nous, c'est fondamental qu'il y ait d'autres gestes qui soient posés, et tous les appuis sont importants, avance Nathalie Provost, survivante de la fusillade survenue à Polytechnique en 1989. À ses côtés, Heidi Rajen, coordonnatrice du collectif Polly se souvient, insiste. Le projet de loi C-21 interdit plusieurs modèles d'armes d'assaut, mais pas tous. Et les armes déjà en circulation échappent à la loi. Madame Rajen croit que le gouvernement de Justin Trudeau doit aller plus loin afin d'interdire toutes les armes d'assaut avant l'échéance électorale qui pourrait porter les conservateurs au pouvoir. C'est une course contre la montre. On croit que le ministre de la Sécurité publique, Dominique Leblanc, a l'intention sincère d'aller de l'avant, mais on voit le temps filer sans action. Le programme de rachat, annoncé en mai 2020, devait être complété en mai 2022.
On est en 2024 et le programme n'a pas encore été déployé, donc on s'inquiète beaucoup. L'échéance électorale. Polly se souvient, était de passage à l'Hôtel de Ville de Montréal pour demander à la mairesse Valérie Plante de faire pression sur le gouvernement Trudeau pour une interdiction complète des armes d'assaut. Les interventions de Valérie Plante ont été déterminantes pour le gel des armes de poing. Elle a même créé une coalition de maires, a rappelé la coordonnatrice, en évoquant la sortie commune des maires de plusieurs grandes villes québécoises en faveur d'une interdiction des armes d'assaut et de poing à l'échelle du pays en septembre 2021, en pleine campagne électorale fédérale. Si le collectif a certaines appréhensions face à l'élection possible d'un gouvernement conservateur, Heidi Rajan tempère les choses. Il y a une bonne chose dans C-21. Une fois qu'une arme est prohibée, elle ne peut pas être légalisée. Donc, ça protège les décrets qui peuvent être défaits, a-t-elle expliqué. Avec 80% des Canadiens qui appuient l'interdiction des armes d'assaut, si on a une vraie mesure solide et on élimine des armes de la circulation, ça va être très difficile, mais pas impossible, pour un gouvernement de défaire cette mesure. Reste que cette bataille n'est pas gagnée d'avance. Si on ne réussit pas maintenant, on ne va pas continuer de se battre à l'infini. Ce n'est pas physiquement possible, a admis Mme Rajan. Soutenir les organismes. De son côté, Abdellah Sari réclame de la Ville de Montréal qu'elle mette gratuitement à la disposition des organismes œuvrant auprès des victimes de violences conjugales des locaux libres de ces bâtiments. Ensemble Montréal souhaite également que la Ville lance deux campagnes de communication, l'une pour diffuser les coordonnées des ressources destinées aux victimes de violences conjugales et l'autre pour les ressources visant les personnes ayant des comportements violents. Au cabinet de la mairesse Plante, on plaide pour que cesse toute forme de violence envers les filles et les femmes. La mairesse poursuit ses représentations auprès des gouvernements supérieurs pour arriver à un bannissement complet des armes d'assaut partout au pays, a souligné Marie-Kim Gaudreau, attachée de presse au cabinet de la mairesse. Nous saluons la mobilisation de l'opposition qui se range derrière nos efforts pour enrayer la violence faite aux femmes et nous demeurons à l'écoute des demandes du milieu pour les transmettre au palier supérieur. C'était Polly se souvient plaide pour une interdiction de toutes les armes d'assaut, un texte de Jeanne Corriveau, paru le 8 mars 2024 dans Le Devoir.